Radio Campus Tour, 99.5 FM.
Vous êtes sur Radio Campus Tour dans l'émission C'est la faute à la manette. Bonjour à toutes et à tous, amis auditrices et auditeurs, et bienvenue dans ce 9e numéro de C'est la faute à la...
Manette.
Merci beaucoup. L'unique émission de Radio Tourangelle entièrement consacrée aux jeux vidéo. Cette semaine, nous vous ferons voyager sous l'océan, mais nous ne parlerons pas de la petite sirène, on parlera bien sûr de BioShock, et plus particulièrement le tout premier épisode. Alors pour m'accompagner cette semaine, et comme les 9 dernières semaines... Aussi, il achète des Blu-ray par camion Ben et bien malgré lui, recruteur de stagiaires, c'est Guillaume. Comment ça va, Guillaume ?
Recruteur de stagiaires ?
Bah écoute, oui, apparemment tu trouves des stages à tout le monde. Donc,
ah oui, j'en cherche en tout cas pour les gens.
T'en cherches pour les gens.
Ouais, c'est un peu mon métier, ouais. Bah écoute, ça va,
ça va,
ouais.
Et ok, alors quel est ton jeu du moment ?
Alors ces temps-ci, je joue à Splinter Cell Blacklist et j'ai relancé Borderlands aussi, le 1.
D'accord. Également en face de moi, l'homme qui peut se nourrir uniquement de kebab et qui n'a toujours pas de gage depuis les deux dernières semaines, c'est Tom. Salut Tom.
Salut Julien, salut tout le monde.
Alors Tom, quel est ton jeu de la semaine ?
Alors puisqu'on parle de sous l'océan, je joue à Subnautica, un jeu de survie sous l'océan.
D'accord. Alors Je viens de dire, tu n'as pas de gage, j'aurais un gage à proposer. Est-ce que Guillaume, je peux proposer mon gage ?
Vas-y.
Alors Tom, tu devrais faire le test d'un jeu que tu adores, Fallout 4, mais tu devras faire un test très positif.
Très positif en étant,
est-ce que tu valides, Guillaume ?
Ah, je valide.
Ok, d'accord. Et bah ce sera ton gage.
Je déteste, mais pas de problème.
Pour la prochaine fois. Enfin, et c'est ici notre première nouveauté de cette soirée, nous recevons cette semaine notre première invitée, donc elle va probablement peut-être apporter un petit peu de féminité à cette émission qui sent un petit peu le mal, hein, la plupart du temps. Il paraîtrait qu'elle vit sous 20 à 30 couvertures en permanence et qu'elle dort plus de 21 heures par jour, c'est Manon. Salut Manon.
Salut.
Comment tu vas ?
Bah ça
va. Pas trop stressé pour la première émission ?
Non mais ça va.
D'accord. Est-ce que tu aurais un petit jeu du moment à nous faire partager ?
Eh oui, mais ça vous en saurez plus tard.
D'accord, ok. Donc au programme cette semaine, nous reviendrons donc sur BioShock, un FPS sorti sur la génération précédente et déjà depuis 9 ans, ça fait déjà beaucoup.
9 ans BioShock ?
Ouais, putain, ouais.
J'avais 11 ans. Oh mon dieu.
Un titre que beaucoup ici considèrent comme culte. On aura également les news et les spin news, on vous l'expliquera un petit peu tout à l'heure, sur fond de musique de Dust Force, un jeu de plateforme sorti sur à peu près toutes les plateformes.
À peu près toutes.
Voilà. Également deux nouvelles rubriques, à commencer par un autre invité du coup qui sera Professeur Gorfus, qui vous expliquera avec brio tous les termes importants que nous évoquerons pendant le débat. Car on considère que dans C'est la faute à la manette, on pense que le jeu vidéo doit être accessible à tous, donc on va essayer de faire un truc un petit peu plus accessible que d'habitude.
On a hâte de le recevoir.
Exactement. Moi pas trop, je suis pas fan de ce mec, mais il explique bien. Voilà. On aura également le flash test de Tom, qui est une nouvelle rubrique également. Tom nous parlera d'un jeu flash sur internet.
Tout à fait.
Et cette semaine, ce sera un jeu qui s'appelle Toss the Turtle.
Exactement, tout est dans le titre.
Voilà. Enfin, on atteindra l'apothéose de ce podcast, le débat. Agrémenté du coup d'un quiz de notre invité fait par ses soins. Du coup on pourra jouer tous les trois pour une fois, c'est pas génial ça ?
Incroyable.
C'est génial. Alors, est-ce que vous êtes Vous êtes prêt pour les news, Guillaume? Est-ce que tu as calé la musique?
Tout à fait.
Eh ben, je te laisse la lancer, on est parti. Alors, les spin news, je vous explique vite fait. Je vais vous dire des titres de news, vous allez me dire si vous trouvez ça bien, si vous trouvez ça pas bien, ou si on s'en fiche totalement.
Okay.
Voilà, tout simplement.
Vas-y.
C'est bon?
Ouais, la musique y est.
Alors, trois nouveaux jeux sont rétro-compatibles Xbox One, dont Alan Wake, et deux jeux dont tout le monde se fout.
Alan Wake, cool.
Alan Wake, cool, parce que bientôt Quantum Break, donc oui.
D'accord.
Ouais, pas mal.
C'est bien aussi ?
Ouais.
Ok. Il y aura une comédie musicale Resident Evil au Japon.
Bah les couilles.
Bah les couilles.
Ouais.
Ils vont faire aussi le parfum comme dans les FF.
D'accord. Eh ben, c'est magnifique.
Je sais pas si c'est intéressant, mais...
Pour les fans.
Le jeu Shadow Complex HD, auparavant exclusif à Xbox 360, débarque sur PC gratuitement et à 15€ sur Xbox One.
Cool sur PC.
Et pas cool sur console.
La BioShock Collection est envisagée pour l'année prochaine, c'est-à-dire BioShock 1, BioShock 2 et BioShock Infinite.
Ça c'est cool, c'est cool.
Ultra
c'est cool.
C'est cool.
Bien s'ils remasterisent bientôt.
Ouais, s'ils remasterisent bien sûr, parce que ouais, c'est vrai que ça a 9 ans du coup, comme on le disait, ouais, ça demande un petit coup
pour
de...
Pour les graphiques, ouais, qu'ils fassent tout ça bien.
Infinite a peut-être pas besoin, je pense, parce qu'il était déjà très beau.
Je pense qu'il a besoin d'un petit peu de fluidité, un petit peu.
Ouais, bah après ça c'est sur console.
60 images par seconde, ce serait déjà très bien.
Ouais.
Peut-être un Borderlands 3 pour 2017.
Ça c'est méga cool.
Un peu trop de Borderlands.
Ouais, mais un vrai Borderlands 3,
okay.
Tu vois.
Ok, ouais. Manhunt et Bully ressortent sur PS4, donc c'est la version PS2, mais en 1080p avec des trophées pour 15€.
Cool.
Ouais, cool, j'aimerais bien qu'il soit sur One aussi.
15€ pièce, hein, je précise.
Ah non, pas
c'est
cool.
C'est ça qui est pas cool.
Non, horrible.
Non, mais c'est bien qu'il ressorte avec les succès et une conversion en 1080p, mais bon, c'est vrai que c'est pas cool le fait qu'on doit raquer autant, quoi.
Ouais,
exactement. C'est
fric égal pognon.
15€, c'est un
encore,
peu cher.
Encore, les deux pour 15€, ça aurait valu le coup.
7€, je pense que ça aurait été le prix juste.
Ouais,
effectivement.
Ouais, tout à fait.
Ça vaut le coup pour quelqu'un qui a pas fait le jeu.
Qui a pas fait le jeu, mais ça reste quand même un peu chéro pour un jeu qui date quand même de plus de 10 ans.
Mais il est cool.
Il est cool, il est très cool. Bon. On passe du coup maintenant aux news normales, des news sur lesquelles on va revenir un petit peu plus. On commence par toi, Guillaume ?
Tout à fait. Alors, moi, première news, donc vous savez tous que Nintendo devrait pas tarder à annoncer leur nouvelle console intitulée la Nintendo NX. Et des premières images du pad, donc de la manette, ont fuité sur les internets. Et on se retrouve avec une manette assez bizarre qui ressemble en fait à un écran tactile avec juste deux joysticks. Donc ça voudrait dire que les boutons seront en fait l'écran tactile. Du coup, moi je trouve ça pas terrible parce que j'aime pas jouer sur un mobile personnellement. Donc moi j'aime bien avoir des belles touches physiques et en plus la manette ressemble à rien. Enfin,
et puis elle est moche, on dirait vraiment une grosse miche de pain. Ouais,
ouais, on dirait un mix entre une miche de pain et un ballon de football américain.
C'est ça,
coupé en deux.
C'est assez moche, ouais.
C'est très très laid, effectivement.
Je me demande est-ce que ça va être une bonne prise en main ou pas. Ça se trouve, on sera agréablement surpris, j'attends de voir, mais pour l'instant, pas très hypé.
Non, moi non plus pour l'instant.
Moi, je dirais un petit peu, parce que ça a du potentiel, un petit peu comme quand la DS avait été dévoilée. Ça pourrait être intéressant, par exemple, d'avoir des jeux avec des schémas de contrôle un petit peu différents, d'appuyer sur triangle pour contre-attaquer et sur X pour frapper.
Et puis, si c'est pas bien, ça ressemble toujours à un gros suppositoire, donc on saura
oui,
où
voilà,
on peut se le mettre.
Dans tous les cas, on saura où on peut se le mettre, exactement.
Ouais, mais ça fait assez cher, quand même.
Ça fait un peu cher, le suppositoire, effectivement. Ouais. Tom, tu avais une news sur le PlayStation VR.
Oui, le PlayStation, ma compagnie favorite, sort sa pâle copie de l'Oculus Rift d'ici peu, et on en apprend le prix. Il coûtera donc 400€, soit le prix d'une PlayStation 4, en fait.
Voilà,
sans accessoires, sans rien.
Même plus cher maintenant qu'une PS4. C'est...
Oui,
c'est même plus cher qu'une PS4 à sa sortie. Et on apprend du coup aussi qu'il y aura un pack avec un pack en fait tout en un qui sera donc à 500€ si j'ai bonne mémoire.
Il me semble, ouais.
Qui va contenir donc le PlayStation VR forcément, deux PlayStation Move, l'accessoire qui peut-être va servir à quelque chose pour la première fois
de sa vie.
De sa vie. le PlayStation Eye qui va pour lui aussi servir pour la première fois.
Wow.
Et un petit jeu dont le nom m'échappe.
Je crois que c'est une compilation de mini-jeux, c'est un peu le Wii
voilà,
Sport finalement.
C'est,
voilà,
donc ça fait 600€ Lightoy 20 ans plus tard.
Ça fait un petit peu mal, je trouve que ça fait
ça fait beaucoup trop cher là. Mais...
Ouais.
Ça fait un petit peu mal. Pour ce prix-là, vous pouvez vous payer un deux tiers d'Oculus Rift qui a du coup plusieurs années de jeu derrière lui déjà. Donc on va dire quand même qu'on l'achètera pour voir ce que ça donne.
D'accord. Alors, moi j'avais une news sur Hyrule Warriors Legend, donc c'est effectivement la déclinaison de l'épisode Wii U, C'est le même jeu, hein, finalement.
Alors, est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est d'abord comme jeu ? Est-ce que c'est un Zelda ? Est-ce que...
Alors, Hyrule Warriors Legend, donc, c'est un jeu estampillé Zelda, mais ce n'est pas un Zelda, c'est plutôt un Dynasty Warriors. Pour
d'accord.
Ceux qui connaissent, c'est un petit peu, voilà, on arrive, on tape des armées entières.
On tape des consanguins.
On défonce 250 000 consanguins à la minute. Voilà.
Okay.
Ce jeu est sorti sur Wii U et vient de sortir il y a, je crois, quelques jours sur 3DS.
Ok.
Oui.
Donc, ce qui était censé être une version ultime ne le sera pas, du coup, puisqu'il y aura des Season Pass. Ouais, c'est génial. J'expliquerai oui, d'ailleurs ce qu'est. On expliquera de toute façon tout à l'heure ce qu'est un DLC et un Season Pass. Pas de panique. Donc, ce Season Pass contiendra plein de choses dont on se fiche un petit peu, comme des skins en plus, des packs en plus. Et loin de délaisser la version Wii U, sera proposé avec cette version 3DS des codes pour télécharger d'autres personnages sur votre version Wii U. Alors, ça semble compliqué et ça l'est. Donc, concrètement, si vous voulez avoir la version de jeu Wii U en entier, il faudra acheter cet épisode 3DS, plus un nouveau Season Pass. Donc il faut encore repasser à la caisse, le jeu revient de toute façon très très cher. Et c'est vraiment vraiment bordélique. Il y aura des packs pour la Wii U, pour la 3DS, pour la Wii U et la 3DS. C'est n'importe quoi.
Ça fait cher, ouais, c'est surtout ça le problème.
Ça devient n'importe quoi. Nintendo a bien compris ce que c'était qu'un DLC désormais. il l'utilise à très mauvais escient et je pense que c'est pas prêt, à mon avis.
On aurait presque préféré des DLC dans les figurines Amiibo au final.
Et ben finalement, c'est quand même un petit peu plus sympa, ouais. Ça conclut les news du coup.
Tout
on va faire
fait.
Une toute petite pause musicale avant. Bah, je vais laisser ma place du coup à Professeur Gorfus juste après.
Oui.
Guillaume, on écoute quoi ?
Alors du coup, on va s'écouter une musique de l'OST de Bloodborne, donc le fameux jeu de survival, on pourrait dire, ouais.
Oui, Action
donc,
Survival.
Voilà, Action Survival, un peu à la Dark Souls, si je m'abuse.
Ouais,
un jeu où on meurt souvent.
Oui, on meurt tout le temps.
Voilà, et donc ça s'appelle The It House Feat Ruby Friedman, Hunt You Down, donc on se retrouve juste après sur CF Automanette, à tout de suite. Your blood's gone bad. I knew it would. The devil came. You need your bad for good. So death is coming. Purge this town. I know your name, and I'm gonna cut you down. You can. Don't bring forgiveness. I don't bring peace. I've come to slay you. Come to kill the beast. I'll search the the crown. You know it's coming, and I'm gonna hunt you down. You can. But I'm gonna cut you. Et donc on vient de s'écouter donc la musique de du jeu Bloodborne, donc Hunt You Down, et je te passe la parole Tom pour...
Alors on va passer à notre prochaine rubrique qui est nouvelle, qui est exclusive à donc cette émission. On accueille le professeur Gorpheus. Professeur, bonjour.
Bonjour.
Alors qu'est-ce que vous allez nous expliquer aujourd'hui, professeur ?
Alors, aujourd'hui, on va vous expliquer des termes un petit peu particuliers du jeu vidéo. Vous savez que cette émission est un petit peu compliquée pour les profanes. Mm-hmm. Donc, j'ai décidé, voilà, en ma qualité de professeur, je vous écoutais régulièrement, comme des millions d'auditeurs, bien sûr.
Effectivement.
Et mon idée, c'était un petit peu d'expliquer des termes, parce que des fois, c'est pas facile, facile.
Eh ben, on vous remercie pour votre fidélité, professeur. Quel est le terme du jour ?
Alors, ce soir, on aura deux termes. Le tout premier, ce sera le terme de FPS.
D'accord, alors qu'est-ce que c'est qu'un FPS, professeur ?
Alors, un FPS, c'est donc un genre de jeu. Donc, un genre dans le jeu vidéo, qu'est-ce que c'est ? On va partir sur une base qui est très très simple. Par exemple, Mario. Vous connaissez tous Mario ici ?
Oui. Oui.
Bien sûr. Mario, c'est un jeu de plateforme, car le but est de se déplacer, sauter, éviter des obstacles, et bien sûr de passer des plateformes, mobiles ou non. D'où le terme de jeu de plateforme, voilà, tout simplement. Dans le cas du FPS, donc, qui est l'acronyme de First Person Shooter, que l'on pourrait traduire grossièrement chez nous par jeu de tir à la première personne.
Alors, c'est très intéressant, du coup, d'un nouveau genre de jeu. Quel est le premier FPS, professeur ?
Ah, alors c'est une bonne question, je n'avais pas préparé ça dans ma rubrique, merci de me gâcher ma rubrique, Tom, alors c'est la première fois que j'y arrive, je trouve que c'est pas très sport de votre part, je suis pas sûr de continuer à écouter votre émission.
Ah mince.
Alors, éclairez-nous Tom, qu'est-ce que c'est le tout premier ?
Le tout premier FPS, c'était Wolfenstein 3D. Mon cher professeur, c'était un jeu de tir de la lignée des Wolfenstein qui est depuis donc devenu une série, et c'était voilà, le premier jeu de tir en 3D.
On me dit dans l'oreillette que c'est Labyrinthe.
Labyrinthe, c'est possible. J'avais souvenir de Wolfenstein. Tu as peut-être raison, professeur. C'est toi le plus intelligent.
Je suis professeur, après tout. Voilà. Donc, un jeu de tir, qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu où l'on tire, déjà, jusque-là, c'est logique.
D'accord.
Donc, sur des cibles ou des ennemis dans un environnement en 3D. Alors, le terme à la première personne, ça peut sembler un petit peu flou. La première personne, c'est je, la deuxième personne, c'est tu, la troisième personne, c'est il. Je vais pas tout vous refaire, vous le savez, vous êtes plus en sixième.
Hein. C'est vrai.
Voilà, tout à fait. Dans le cas qui nous intéresse ici, on voit le jeu à travers les yeux du personnage. Voilà, donc la première personne, je, donc à l'intérieur du personnage. On voit généralement sur l'écran le bras du personnage, voire ses deux bras. Voir si le jeu est bien fait et que les développeurs en ont quelque chose à faire, on voit ses pieds.
Et des fois on voit ses seins.
sur certains jeux.
Jurassic Park.
Sur Jurassic Park, effectivement, voilà. Donc généralement, le FPS moderne se joue avec deux joysticks. Le joystick, c'est voilà, cette petite protubérance qu'il y a sur les manettes, il y en a deux généralement. Deux sticks, donc le premier stick est généralement alloué au déplacement du corps. Donc vous déplacez le corps avec le premier joystick, vous vous avancez comme ça, c'est super. Et le second correspond généralement au mouvement de la tête. Puisque quand vous courez, généralement, vous n'allez pas tout droit. Quand vous marchez, vous tournez la tête de temps en temps, c'est un petit peu plus facile et ça évite de se prendre les murs. Voilà. Est-ce que ça vous convient comme définition ? Alors,
Je suis éclairé maintenant. Est-ce que tu aurais du coup un exemple de FPS récent que tout le monde connaît pour éclairer de nouveau nos spectateurs ?
Et très simplement, ça peut être par exemple Call of Duty.
D'accord.
Voilà, je pense que c'est le terme qui parlera au plus de monde qui nous écoute. Hein, parmi 90 millions, je pense qu'il y en a qui y jouent. Hein.
C'est possible.
Voilà, tout à fait. Et voilà, Call of Duty, c'est l'exemple qui me vient en tête, puisque c'est finalement le plus populaire. Voilà. À ne pas confondre toutefois avec ce qu'on appelle dans le jeu vidéo le TPS, qui est le First Person Shooter, donc jeu de tir à la troisième personne, donc il. Et ce il, justement, est caractérisé par le fait que l'on voit le personnage qu'on incarne. Mais ça se joue exactement pareil.
D'accord.
Voilà, tout simplement.
Est-ce qu'on avait un deuxième terme aujourd'hui, du coup ?
Oui, le deuxième terme qu'on verra aujourd'hui, c'est le DLC.
D'accord.
Voilà.
Mais qu'est-ce un DLC ?
Qu'est-ce qu'un DLC ? Vous faites bien de me le demander, puisque je vais vous l'expliquer. Ah. Le terme DLC ou Downloadable Content, ou contenu téléchargeable chez nous pour les bons français, concerne un contenu supplémentaire pour un jeu. Ce contenu peut être d'ordre cosmétique, donc par exemple un costume, quelque chose qui n'a pas d'incidence directe sur le jeu. Il peut prolonger l'histoire, raconter une autre histoire ou ajouter de nouveaux modes de jeu.
Voilà. Alors, un DLC, ça coûte combien, professeur ?
Alors, ces DLC sont généralement vendus uniquement en ligne, déjà il faut le dire.
D'accord.
Parfois des versions en boîte existent, mais c'est plus rare. Leur prix peut être variable, pouvant aller de quelques euros pour les plus simples, par exemple un petit costume dans Street Fighter pour 5 euros seulement, hein. c'est pas très cher.
Pas cher.
Ou une armure pour votre cheval à seulement 3 euros, c'est génial. Ou à plusieurs dizaines d'euros pour les plus complexes ou les éditeurs les plus radins. Voilà. Leur intérêt, c'est surtout de pouvoir apporter du contenu à un jeu que l'on aurait déjà terminé et avec lequel on souhaiterait prolonger son expérience de jeu.
D'accord, d'accord. Est-ce que, du coup, j'ai entendu deux exemples de mauvais DLC. Est-ce qu'il y a des exemples de bons DLC aussi, ou est-ce que c'est juste une vaste arnaque ?
Alors, on pourrait penser, par exemple, à la fameuse série des GTA. GTA qui DLC à, je crois, à 15 euros pièce,
oui.
Qui étaient des histoires à part entière, qui duraient une dizaine d'heures et qui valaient vachement le coup.
The Last Damned and the Ballad of Gay Tony.
Voilà, exactement, merci Guillaume. Alors, ces DLC sont soit vendus à l'unité, donc vous pouvez les acheter, voilà, 1 plus 1 plus 1 plus 1, ça fait 3, et soit dans leur intégralité dans ce qu'on appelle un Season Pass.
D'accord.
Alors, qu'est-ce qu'un Season Pass ? C'est l'ensemble de tous les DLC d'un jeu qui sont vendus cher que leur prix total. C'est un peu comme si vous achetiez un ticket doré pour Charlie et la chocolaterie, par exemple.
Voilà. D'accord.
Cet exemple n'avait aucun sens, mais voilà, je pense que vous avez compris.
On a compris.
Donc voilà, à vous de voir si le contenu d'un jeu vous intéresse ou non, et d'être vigilant sur les prix. Est-ce que ma définition vous convient également ?
Eh ben moi, la définition me convient bien.
Voilà.
Je crois avoir compris ce qu'était un season pass après ça.
C'est super, merci beaucoup. Donc après ces deux explications, vous êtes prêts à affronter le débat qui va venir, donc. Après, je crois, votre rubrique, Monsieur Tom.
Tout à fait.
Voilà, plus sereinement. Donc, un tout nouveau monde de rêves, d'aventures et de jeux vidéo vous attendent. Et ça, c'est bien. Voilà, bah écoutez, je retourne à mon labo. Je vais laisser Julien revenir parce qu'apparemment, il m'aime pas trop.
Oui, il est parti pendant la pause.
Bah, personne ne l'aime, de toute façon.
Je m'en vais, merci, au revoir. Et à la prochaine fois.
À la prochaine, rendez-nous, Julien.
Au revoir.
Hop, et voilà, donc on vient d'écouter la chronique de notre cher professeur Gorifeus. Notre ami Julien revient sur le plateau.
Il est parti, c'est bon ?
Ouais.
C'est mieux. Est-ce que tu peux reprendre le rôle de présentateur, s'il
oui,
te plaît ?
Bah, oui, bah écoute, j'attendais qu'il reparte. Donc oui, Tom, c'est à toi, tu vas nous présenter ta nouvelle rubrique, donc Flash Test.
Oui, alors dans Flash Test,
est-ce que ça a quelque chose à voir avec Flash Dance ?
Non, ça n'a rien non plus à voir avec Flash la série.
Je t'en prie, vas-y.
Alors dans Flash Test, on teste quoi ? Un jeu en Flash. On va partir sur qu'est-ce que c'est qu'un jeu en Flash.
Oui.
Un jeu en Flash, c'est donc un jeu qui va être jouable dans votre navigateur, Internet, ou voire après être porté en tant que vrai jeu jouable sur votre console,
voilà,
etc.
Voilà, Google Chrome, Firefox, voilà. Internet Explorer, si vous êtes vraiment, vraiment à la dèche.
Voilà, et du coup, ce sont des jeux qui sont faits avec souvent 0 euros de budget,
c'est ça.
Mais qui sont faits toujours par des passionnés. Il y avait une époque, disons, entre 2000 et 2000... 5, 6 peut-être, où les jeux en Flash vraiment florissaient un petit peu partout et qui sont devenus en fait les indépendants.
C'était les débuts de la DSL, où des connexions au débit.
Voilà, c'était incroyable. Et on avait l'internet illimité. Et donc on va parler des jeux de cette période qui étaient vraiment, vraiment rigolos. En particulier, donc celui d'aujourd'hui, c'est Toss the Turtle. Toss the Turtle, c'est Paf le chien 10 ans avant.
Ça veut dire envoie la tortue.
Voilà, ça veut dire lancer la tortue, envoyer la tortue. C'est donc Paf le chien ou Yeti Sport pour les plus vieux, qui était sorti donc vraiment longtemps, longtemps avant. Donc ce jeu est apparu sur la plateforme Newgrounds en premier. Dans cette rubrique, on va énormément parler de cette plateforme vu qu'elle a fait énormément pour le jeu en Flash, au même titre que Armor Games ou Kongregate pour ceux qui connaissent.
C'est un site où il y a des dizaines, hein, je précise, voilà,
des centaines de
jeux en Flash. Plus ou moins bien, d'ailleurs.
Voilà, alors c'est les fondateurs de cette plateforme sont ceux qui ont fait les jeux Castle Crashers, Alien Hominid, Battleblock Theater,
Super Meat Boy.
Super Meat Boy, c'est pas les fondateurs, mais le jeu à la base, Meat Boy, vient
d'un jeu Flash.
Oui, c'est ça,
d'un
Meat
jeu
Boy,
Flash.
Ouais,
voilà. Donc tous les jeux que vous connaissez, les petits jeux indés que vous connaissez, viennent souvent soit d'une version Newgrounds, soit ont des créateurs qui ont été sur Newgrounds.
D'accord. Alors, donc, tu vas nous parler de Toss the Turtle.
Voilà,
vas-y.
Alors, on revient, on revient dans le jeu. Toss the Turtle, donc, c'est un jeu où il faut lancer une tortue le plus loin possible. Vous avez une tortue dans un canon, vous visez avec votre canon sur un plan en 2D, et vous tirez votre tortue le plus loin possible. Quand la tortue donc s'écrase dans une gerbe de sang abominable sur le sol, ou après quelques rebonds, on calcule la distance à laquelle vous l'avez envoyée, et vous gagnez de l'argent par rapport à cette distance. Wow. Avec votre argent, qu'est-ce que vous faites ? Vous achetez un plus gros canon. Vous la lancez de plus en plus loin et vous gagnez de l'argent. Et avec cet argent, qu'est-ce que vous faites ? Vous achetez un plus gros canon. Et ce, pendant des heures et des heures et des heures.
Et quand vous avez plein d'argent, vous vous achetez une vie.
Alors, à la fin, on peut s'acheter un canon en or. Qui est un des buts ultimes, voire un tank. Le tank, c'était l'emblème de Newgrounds, donc c'était une petite référence. Il se trouve, donc, pourquoi j'ai choisi ce jeu-là, et pas, par exemple, Yeti Sport, qui était un des premiers de sa catégorie. C'est parce que ce jeu-là était donc un des premiers jeux en flash qui ressemblait réellement à un vrai jeu, avec un vrai gameplay, qui aurait pu tout à fait être un jeu d'iPhone... plutôt très correct s'il était sorti ces années-là. À l'époque, c'était vraiment incroyable de pouvoir jouer à un jeu qui avait plus de 20 minutes de durée de vie sur Internet.
Tout à fait.
Puisque donc là, même si on fait tout le temps la même chose, ça reste amusant. Y a beaucoup de références à d'autres jeux. On tombe sur des Goombas, on tombe sur des Bobombes, etc., etc. Mais le tout dans une ambiance un petit peu gore. Et donc, c'était ça qui était un petit peu rigolo aussi avec les jeux Flash, vu qu'il n'y avait aucun éditeur et que les jeux ne généraient aucun argent. Forcément, on pouvait faire ce qu'on voulait avec les personnages qu'on voulait.
D'accord.
Et jeu formidable, donc si vous voulez vous y replonger, vous avez au moins 3-4 heures de gameplay dessus, sans s'arrêter de s'amuser. Vraiment.
Alors, j'aurais une petite question, moi.
Ah oui, alors j'écoute.
Est-ce que c'est un jeu idéal pour jouer aux toilettes ?
Oui, c'est très bien pour jouer aux toilettes, c'est très bien pour jouer au travail, c'est très bien pour jouer dans les transports en public. Vraiment, vraiment très amusant. On fait plusieurs petites sessions et voilà, on s'amuse quasi à coup sûr.
D'accord.
Dans le même genre, donc, on parlera chaque semaine d'un jeu flash différent. Pourquoi est-ce qu'il est bien ? Pourquoi est-ce qu'il est pas bien ? Est-ce que vous, par exemple, vous aviez joué à Toss the Turtle à l'époque ?
Pas du tout.
Non, mais est-ce j'avais joué à d'autres jeux du même style.
Oui, voilà. Moi aussi. Ouais, c'était d'autres trucs. Pas ah, flouchien.
Il y a eu le Yeti.
Oui, le Yeti Sport.
Mais il y en avait plein en même temps, donc.
Oui, c'est vrai. Alors du coup, c'est un des jeux qui arrivait, on va dire, au milieu de la vague, mais qui était vraiment très travaillé. Donc,
je crois que t'en avais un, c'était pour envoyer ton caca.
Ah, c'est possible, il y a eu vraiment de tout. Du coup, pour les jeux flash, on pouvait faire ce qu'on voulait.
D'accord. Et eh ben, une dernière question peut-être ?
Peut-être une question, j'écoute.
Non, bah si, alors vu que c'est un jeu flash, tu peux pas sauvegarder, donc
alors,
je vais
si.
Jouer.
Le jeu sauvegarde automatiquement, parce qu'il, voilà, comme pas mal de jeux Newgrounds, justement, qui avaient vraiment une communauté de développeurs aguerris en flash, le jeu sauvegarde automatiquement, donc si vous voulez rage quitter, vous pouvez revenir et revoir votre échec.
D'accord.
Ah, sympa.
Alors Manon, okay. Une question peut-être ?
Bah non, comme ça, pas de questions.
Pas spécialement.
Rien te vient. Donc,
Et ben, du coup, on va peut-être faire une petite pause avant de passer au débat.
Au gros, avant de parler de la bête.
De la bête.
De BioShock.
Et de notre quiz aussi.
Et de notre
on ne l'oubliera
quiz,
pas.
Bien sûr. Alors, on va s'écouter donc une musique intitulée La mer de Stéphane Grappelli. On se retrouve juste après dans C'est la faute à la manette. On vient de s'écouter donc une musique de l'OST de Bioshock 2, donc de Django Reinhardt et de Stefan Grappelli, intitulée donc La Mer. Et donc on revient au mouton de C'est la faute à la manette.
Oui, alors on va donc passer au gros finalement de C'est la faute à la manette, c'est-à-dire le débat. On va parler donc cette semaine, comme je vous le disais, de Bioshock. Bioshock, alors qu'est-ce que c'est que Bioshock, Guillaume, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, alors, les infos sur le jeu
si
général?
Si j'ai bien compris ce qu'a dit le professeur Greffus tout à l'heure, c'est un first-person shooter.
Exactement.
Un jeu de tir à la première personne, sorti il y a déjà de ça 9 ans, donc il est sorti en 2004.
Et en fait, oui, le professeur a dû se tromper, il est sorti en août 2007.
2007, ah, ok. Donc il est sorti en 2007, et donc on incarne un héros dans une ville sous-marine de... appelé Rapture. Est-ce que j'en dévoile plus ou on
alors,
parle
de... Moi, je vais parler
de
l'histoire. Dis-nous un peu sur quelle plateforme il est sorti.
Alors il est sorti à l'époque sur PC, sur Xbox 360 et PS3. Donc, c'est la génération d'avant.
D'accord.
Et les trois jeux Bioshock, de toute façon, sont sortis sur cette plateforme. À l'époque, c'était une claque visuelle. Que dire de plus pour présenter... donc oui, ça restait quand même un gameplay assez normal pour un FPS. À part que les touches étaient... enfin, par exemple, pour viser, c'était le joystick droit. Ce qui n'était pas habituel d'habitude au FPS, c'était souvent la gâchette gauche.
Ouais, éventuellement. Effectivement.
Assez, voilà, et on avait des pouvoirs aussi spéciaux. Donc c'était pas qu'un FPS, on avait aussi des pouvoirs magiques.
D'accord. Bah, de toute façon, on y reviendra voilà, dans la
ça,
deuxième
c'est
partie.
Que
c'est...
J'avais peur de spoiler un
de
peu.
De spoiler un petit peu. Alors moi, je vous en dis un petit peu plus sur l'histoire. Donc le jeu prend place en 1960. Le personnage incarné par le joueur, survivant d'un accident aérien en pleine mer, découvre la ville sous-marine de Rapture. Donc c'est une ville construite par un mégalomane milliardaire au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, afin d'y réaliser ses rêves les plus fous de société utopique, loin de toute morale ou menace extérieure. Donc au commencement du jeu, Jack, donc le personnage incarné par le joueur, est le seul rescapé à bord d'un avion qui s'abîme en mer suite à un accident dans l'océan Atlantique. Il découvre alors Rapture et voilà, essaye un petit peu de savoir ce qu'il fait là, qu'est-ce qui se passe. C'est un petit peu une société un petit peu dystopique, on y reviendra un petit peu. Il y a plein d'affiches de propagande partout, voilà, il sait pas trop ce qu'il fait là. Il voit des gens se battre, il voit des choses assez bizarres, des gens assez étranges, on reviendra aussi sur les ennemis tout à l'heure. Il trouve alors une radio par terre et est contacté par plusieurs personnes, dont Atlas, donc une personne qui affirme avoir besoin de lui pour sauver sa femme et son fils de Rapture, en échange de quoi il le guidera à travers la ville. Donc Atlas confie à ce dernier que le seul moyen de survie dans ce milieu fortement hostile est d'utiliser les facultés extraordinaires procurées par les plasmides, donc c'est aussi un terme sur lequel on reviendra, et qu'il doit à tout prix trouver les petites sœurs afin d'extraire la dent du parasite qui les occupe. Donc on sera contacté par plusieurs personnes au fur et à mesure du jeu, on va pas tout spoiler. On va d'abord parler un petit peu des origines de Bioshock. Tom, tu avais quelques mots à nous dire sur l'ancêtre finalement
oui.
de Bioshock.
Alors le grand frère de Bioshock, c'est System Shock. En oui. fait, alors le créateur du jeu n'en était pas à son coup d'essai en fait avec Bioshock. Il avait déjà sorti deux jeux, System Shock 1 et 2, qui sont plus ou moins, pour ceux donc qui connaissent un petit peu Bioshock, qui sont Bioshock dans le futur. C'est-à-dire que on était dans le premier, on se réveillait sur une station qui avait été prise sous contrôle d'une IA qui s'appelait, si j'ai bonne mémoire, Shodan, et on devait donc se battre un petit peu avec cette entité omnisciente dans une ville un peu abandonnée et dont les humains avaient été fusionnés avec la machine, et donc une suite où Shodan revenait prendre un peu le contrôle d'une autre station spatiale ou d'un vaisseau et se battait contre une autre entité omnisciente, mais cette fois faite de chair.
D'accord.
C'était donc des jeux grosse ambiance, donc un petit peu horrifique comme Bioshock, avec un petit peu de la magie entre guillemets comme Bioshock, des armes comme Bioshock, peu de munitions comme
d'accord,
Bioshock.
Mais on est d'accord que ça ne fait pas partie de la série.
Ça ne fait pas partie de la série. Alors, ça fait partie, on va dire, de la série étendue. C'est-à-dire que si vous voulez faire tout ce qui touche à Bioshock, il va falloir faire System Shock à un moment. Mais
voilà.
C'est pas dans l'histoire, c'est pas...
Il
voilà.
y a une très forte influence de System Shock du
exactement.
Coup, sur Bioshock. Bioshock. Alors, avant de rentrer en détail dans tout ce qui est gameplay, voilà, tout ce qui est un petit peu plus complexe, on va commencer par la question habituelle. Comment avez-vous découvert ce jeu? Et on commence par toi, Manon.
Alors, moi, je l'ai découvert grâce à un ami qui connaissait à peu près les univers que j'aimais et donc me l'a proposé parce que c'était un univers, c'est vraiment le design et tout, c'est des choses qui me plaisent. D'accord,
donc toi, la première chose que tu as vue finalement dans le jeu, c'est tout ce qui était l'ambiance, l'univers, plutôt que
voilà,
le jeu en lui-même.
Voilà, c'est plus, je m'arrête plus sur des designs et scénarios au niveau des jeux que vraiment sur la jouabilité.
D'accord, alors du coup, ton personnage préféré de BioShock ?
Ah, moi, c'est les petites sœurs.
Les petites sœurs, d'accord, très bien. JM, comment tu as découvert ce jeu ?
Alors, moi, c'est à mon époque, bah, comme vous l'avez dit, comme on l'a dit, bah, c'est sorti il y a 7 ans. Moi, j'étais assez jeune. Je m'intéressais aux jeux vidéo et je jouais qu'aux jeux vidéo sur le PC de mes grands-parents. Et je cherchais, du coup, par rapport aux tests sur jeuxvideo.com, des jeux qui étaient les mieux notés. Et à l'époque, c'était quasiment l'un des seuls jeux récents à avoir une note de 19 sur 20 sur jeuxvideo.com.
D'accord.
Du coup, qui pouvait tourner sur le PC de mes grands-parents, donc je l'avais téléchargé, et c'est comme ça que je l'ai découvert.
D'accord, alors je reprécise ce que j'ai calculé dans ma tête, hein, 2007 c'était bien il y a 9 ans. Hein.
D'accord, bah donc j'avais 11 ans.
Voilà. On est en 2016, 6 et 3, 9.
Guillaume hein, avait 3 ans et demi.
Waouh, c'était fou. Alors toi Tom, vu que tu parles, vas-y.
Alors, puisque c'est moi qui parle, BioShock, je l'ai découvert dans les pages de Joypad, un magazine stylé à l'époque. Je sais même pas d'ailleurs s'il existe toujours, mais toujours est-il que c'était dans les pages de ce formidable magazine à l'époque. Et tout le monde en parlait en fait, réellement, tout le monde disait BioShock c'est la vie, BioShock jouez-y, etc. Je n'avais pas d'Xbox 360 à l'époque, et donc j'ai rattrapé mon erreur quand j'ai eu ma Xbox à la sortie de Gears of War 2. J'ai acheté très 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 vite BioShock, et donc je l'ai fait quasi d'une traite. Le jeu m'a vraiment emballé.
D'accord, donc ce que je vois, c'est qu'on a été un... D'ailleurs, moi, je ne l'ai pas raconté, du coup.
Raconte-nous.
C'est un jeu que j'avais suivi avec vraiment, vraiment beaucoup d'intérêt. La première bande-annonce qui avait été diffusée m'avait vraiment, vraiment intrigué. Je sais pas si quelqu'un s'en souvient, c'était...
C'était assez...
C'était assez glauque. Hein.
Oui, c'est avec les petites sœurs, justement.
C'était avec les petites sœurs, avec le mec qui se fait transpercer par la grosse vrille du protecteur. Et moi, ça m'avait tout de suite intrigué. Ça avait l'air de tuer, hein, tout simplement. Je l'ai acheté à sa sortie et bien sûr...
Pas ça tuait.
pas déçu, du coup. C'est 60 euros très, mais alors très, très bien investi.
Donc toi, t'étais déjà adulte ?
Ah ben oui,
mais il avait déjà 38 ans à l'époque.
Il y a des gens qui sont nés avant 1999.
Oh, putain, merde, c'est dingue.
Et alors oui, je vois qu'on a tous été hypés par le jeu, en tout cas. On a été... voilà.
Ah ouais.
Il nous a plu avant, finalement, d'y jouer.
Oui. Oui,
dans tous les cas.
Bah oui, on peut dire ça.
On fait, ouais. Ok, et eh ben, est-ce qu'on passe au quiz avant de passer au gros du débat ? Est-ce que ça vous dit ?
Moi, ça me va.
Un petit quiz musical.
Ouais, ça,
alors,
on repose le ciboulot.
On va se reposer un petit peu puisque cette semaine, c'est Manon qui va nous proposer son quiz. Manon, c'est à toi.
Bah oui, alors j'ai voulu mettre vos connaissances et vos compétences que vous luttiez les uns contre les autres, voir qui était le plus fort. Donc en fait, j'ai 10 extraits, donc soit de phrases cultes, soit des extraits musicaux de jeux vidéo, donc les 15-25 premières secondes, faut que ce soit dur quand même. Mm-hmm. Donc à chaque fois, vous allez écouter et essayer de deviner de quel jeu on parle.
Voilà.
Et pas de la licence, je veux le jeu.
D'accord. Et tu m'as dit avant l'émission qu'il y aurait des lots. Hein.
Oui, il y a des lots à gagner.
Est-ce que je lance le jingle du coup ?
J'ai hâte d'avoir mon Tintin au Tibet.
Je lance le jingle. Voilà, donc c'était un jingle d'une émission d'M6. Ou alors c'était juste Pac-Man que tu voulais parce que...
C'était une très vieille émission d'M6, je crois.
Voilà, donc c'était pour le clin d'œil si les gens ont reconnu, même si c'était les bruits de Pac-Man. Voilà. Donc
voilà.
À tes ordres, Manon, pour lancer les jingles.
Nous commençons donc avec le premier extrait qui est donc de la musique.
Donc je lance ça. Attention, 3, 2, 1. Pokémon Shuffle.
Ouais, bien joué Guillaume.
On sent celui qui joue beaucoup sur mobile en ce moment.
Alors on rappelle qu'ici on a un joueur mobile, un joueur console et un joueur un peu de tout.
Non, c'est faux, j'y joue très rarement. J'ai arrêté d'y jouer à Shuffle, ça m'a gonflé. Mais j'ai reconnu la musique.
On va s'en rappeler longtemps, hein, fais gaffe. Hein. Donc bah, ça fait un point pour toi.
Il devrait pas compter pour Pokémon Shuffle.
On lui accorde.
C'est Manon qui décide. Hein,
c'est vrai.
Le deuxième, c'est un extrait, une phrase. Donc.
D'accord, je lance.
Finish him. Mortal Kombat.
Et t'as pas dit ton nom.
Ah, Tom, c'est vrai. Mortal Kombat. Et si je m'appelais Mortal Kombat ?
Non, c'est faux.
Elle était simple celui-là aussi. Hein.
C'est vrai.
Ouais, non, mais on va aller vers du compliqué au fur et à mesure, faut pas s'inquiéter.
On dit les noms avant, du coup, maintenant. Comme ouais, ça, c'est, comme ça, c'est ça.
Ok, voilà.
Et la troisième aussi, un extrait, une phrase.
Your face, your ass. What's the difference?
Julien, Duke Nukem.
Ouais.
3D, je suppose.
Ouais.
J'allais dire Duke Nukem aussi, mais t'es
un point partout.
C'est moi, je dois faire la technique en même temps, tu vois. Je me charge des excuses. Ouais, bref.
Ouais, mais ça fonctionne pas.
Question 4.
De la musique cette fois-ci.
Comme la première.
Tom, Mario Galaxy?
Non.
Ah ouais, j'avais pensé à ça.
On aurait pu croire.
Je le connais en plus, j'en suis sûr que.
Ah, messieurs! Un petit indice!
Guillaume Kingdom Hearts?
Non.
Ah ouais, j'aurais dit ah ça oui, aussi, pas loin, mais j'étais pas sûr.
Ouais, un petit indice du coup?
Il y a un roi.
Il y a quoi?
Il faut
un
rouler
roi.
Quelque chose en boule.
Guillaume.
Ah oui, Julien, Beautiful Katamari?
Ouais.
Ah. Ok. D'accord, on passe à la question 5.
Ouais, la question 5, c'est une phrase.
D'accord.
Let's rock, baby. Tom, Devil May Cry.
Eh ouais, on est bon là-dessus.
Julien, il est triste là de pas avoir trouvé. Il est tellement triste.
Donc ça fait 2-2 à 1.
Ouais.
Ouais, je suis le dernier. Sniff. Question 6.
Question 6 de la musique.
Persona, Guillaume Persona.
Mais lequel? Ça, ouais, c'est la licence.
C'est Persona 4.
Non.
Guillaume Persona 3.
Non.
Guillaume Persona 2.
Non.
Julien Persona 1.
Ouais.
Ouh. Ah putain.
Quand même.
On reconnaît bien la licence quand même. Hein.
Moi je savais pas lequel c'était.
Bon bah 3-2-2.
3-2-2, ouais.
Et là nous restons sur de la musique.
Donc question 7.
Question
de la
7.
Musique.
Ouais.
Transformers. Non.
Julien, Trials.
Ah mais lequel?
Trials Fusion.
Trials Fusion.
Je l'ai dit avant Fusion.
Ouais. C'est, ouais, bien, c'est bien Fusion.
Je le passe à Guillaume. T'as hésité. Bon.
Ah, on peut voler la parole comme ça? Ah,
oh,
je le ferai.
Il l'a volé, il l'a
ça
volé.
Ça se fait pas du tout.
Je suis désolé, c'est que...
C'est mon jeu, je fixe
j'ai
la
pensé
règle.
Futuriste, j'ai dit Fusion.
3-2 à 2.
3-2. Ouais. Non, 3-3-2.
3-3-2, ouais.
Ok, alors question 8.
Question 8, nous repartons sur une phrase.
Allez, je vais reperdre de toute façon. Tu regagneras, mon cher Julien. Allez, question 8.
Julien, ah, ce jeu
Guillaume,
horrible.
C'est pas, bah non, c'est pas Metroid, non.
Non, 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 pas.
Alors,
du tout.
Tom,
non, non.
C'est pas Xanadu.
Non, c'est pas ça. C'est un nom de, c'est un shooter à la con.
C'est un vieux jeu.
Oui, mais en plus je l'ai chez moi en plus.
Qui est culte juste pour cette phrase qui est très mal traduite.
Ça commence.
Ah oui, d'accord, je vois le jeu.
Ça commence par un Z.
Oui.
C'est ça. C'est.
Oui, je vois le jeu qui a été très mal traduit.
Oui, oui, All Your Base Are Belong to Us.
Voilà.
C'est.
Non, je l'ai plus.
C'est Z quelque chose.
C'était Zero Wing.
Zero Wing.
Zero Wing.
Putain, voilà. J'aurais pu le googler, moi.
Personne.
J'aurais pu avoir un demi-point quand même.
Non.
T'as juste un Z, hein, c'est bon. Question 9.
Une phrase toujours.
C'est parti.
Tom, Far Cry 3.
Ouais.
Oh. Ah oui, Vas.
C'est Vas.
J'y ai pensé aussi.
Ça fait 3 partout.
3 partout.
3-3-2, non? Non,
non, je crois que Guillaume en a 3.
Non, Guillaume en a 1.
J'en ai 1.
Non, Guillaume en a 2.
2, ouais.
Tom en a 3 et Julien en a 3.
Ok.
Et donc la dernière se fera sur la dernière question qui est une musique.
Une musique. Alors,
et Guillaume peut rattraper un point.
C'est vrai.
Attention,
voilà, là, le stress.
Surtout sur celui-là, je serais très déçu te connaissant.
J'ai peur. Je lance ça.
Julien,
merde.
Pégueule.
Ah oui.
Sinon, j'ai c'est de la musique temps. Classique aussi. Hein.
mais on l'entend dans Pégueule.
J'ai pas eu le temps de réagir, moi. J'ai cliqué à la place de dire Guillaume. Je trouvais la réponse.
Fallait dire Guillaume et puis lancer la musique en fait.
Ouais,
t'aurais eu le temps.
Crasute.
Et bah, du coup, on arrive, je crois, à la fin de ton quiz.
Et bah, nous arrivons à la fin et Julien donc a gagné.
Ouais,
4 points.
Alors, qu'est-ce qu'on a gagné? Qu'est-ce qu'on a gagné?
C'est vrai, ça.
J'espère que ça se mange.
Eh ben non, même pas.
Oh, ce n'est pas comestible. Zut.
Bon, il y a même des cadeaux pour les perdants. Je suis très gentille.
Wow. Alors celui-là, c'est lequel? Ça, c'est pour nous.
Tiens, Guillaume.
On a gagné quoi?
Bah, faut ouvrir, en fait.
On a gagné des zomblings.
Ouais.
Plus une tower.
En fait, qu'est-ce vous avez tous c'est à peu près la même chose. Un zombie et un claque-doigt en plus pour le
vainqueur. Des claques-doigts du gagnant.
Bonus. Alors,
c'est une espèce de petite boîte genre collectible. Voyons voir, on dirait une petite tour. Ah,
c'est une petite maison.
Avec des zombies.
J'ai une petite maison violette.
J'ai
avec
une petite maison jaune.
Avec un petit zombie à l'intérieur.
On dirait une sorte de
Guillaume dit jaune alors que c'est orange. Voilà. Je préviens.
Il y a un petit
jaune.
Zombie. C'est une petite toilette. On dirait des toilettes avec un zombie à l'intérieur.
Ça s'ouvre avec un zombie à l'intérieur. C'est plutôt cool.
C'est plutôt mignon.
Merci pour ces
Merci
super
beaucoup.
Cadeaux.
On peut applaudir.
Ouais.
Moi j'applaudis.
On peut les faire battre aussi. Ce qu'il y a écrit. D'accord.
Ok, et on va revenir au débat du coup, messieurs, mesdames, tout le monde.
D'accord. Ok, alors le mien il s'appelle Using, voilà.
Using, d'accord. Très bien, très bien. On verra tout ça après l'émission, les amis.
Oui. Alors,
revient un petit peu sur le débat. Donc BioShock, donc c'est un FPS, on est d'accord.
Oui, tout à fait.
Mais comment ça se joue? Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer un peu comment se joue BioShock en
détail ?
Allez,
c'est pour moi. BioShock, ça se joue un petit peu de façon stratégique, on va dire. C'est un jeu de tir, mais on ne bourrine pas. C'est-à-dire que on est donc dans cette ville qui nous oppresse, on est sous l'eau, hein, donc
sous l'eau,
c'est vraiment
ouais,
voilà, c'est vraiment oppressant, claustrophobe. Et c'est un jeu un petit peu d'observation. Il y a pas mal d'action, mais il y a aussi des phases d'observation où on observe quels ennemis nous entourent, quelles stratégies serait la mieux à utiliser. En termes de gameplay pur, on a donc le choix entre notre arme et un pouvoir, donc un plasmide qui ont été...
Ou les deux en même temps. Hein.
Alors non, les deux en même temps arrivent dans le 2. Dans le premier, on est obligé en fait de changer avec
de
une
switcher,
touche
ouais.
entre le plasmide
LB.
Et son arme.
D'accord, je me souvenais plus.
Et c'est quelque chose qui arrivait un petit peu plus tard, et donc dans le premier, on était obligé de choisir.
Je vois à ton regard que tu es du dubitatif.
Oui,
il a raison.
Parce que j'ai rejoué il y a pas longtemps, et effectivement, je pouvais quasiment enchaîner les deux.
Alors, à moins qu'il y ait
une
mise à jour,
c'est une touche pour changer.
Et je crois même que tu as raison que c'était bien LB.
C'est LB, ouais, pour changer.
Non, mais je vous fais confiance, il n'y a pas de souci.
Du coup, donc, on pouvait. On doit faire attention entre, par exemple, la magie, mettons, si quelqu'un est dans l'eau, et on va lui envoyer un choc électrique, ce qui va lui faire très mal puisqu'il est dans l'eau. Il y a forcément les sempiternels barils d'explosifs qu'on s'empressera d'enflammer, etc., etc. Donc on doit jouer avec l'environnement, le tout dans un univers FPS.
D'accord, donc t'as dit qu'il y avait des pouvoirs. Dans ce jeu, on les appelle des plasmides.
Exactement.
Du coup, les plasmides... Alors, Guillaume, est-ce que tu veux expliquer un peu ce que c'est que les plasmides ?
Bah, des plasmides, en fait, c'est des espèces de mutations génétiques qui sont en cocktail. Enfin,
qu'on s'injecte, en fait.
Qu'on s'injecte, oui, voilà. Et c'est monnaie courante là-bas, en fait. Chaque homme peut devenir... spécial, et du coup, en s'injectant un pouvoir, on obtient des capacités. Donc, il y a par exemple lancer du feu, lancer l'électricité, manipuler par exemple des tourelles.
Voilà.
Dans Infinite, on peut lancer des corbeaux par exemple.
Ouais.
Voilà.
C'était des abeilles, je crois, dans le premier d'ailleurs.
Des abeilles, ouais, je m'en souviens.
Et voilà, et du coup, par contre, du coup, en utilisant ces pouvoirs, on a une jauge d'Adam,
oui, tout à fait.
Qui se vide, donc on pourrait dire une espèce de jauge de mana, en fait, comme pour être plus simple, c'est une espèce de jauge de mana.
Oui.
Et du coup, il faut récupérer des boissons pour que sa jauge remonte, pour utiliser ses pouvoirs. Et on peut aussi, du coup, charger sur la touche du pouvoir pour faire un pouvoir plus fort.
Plus fort et plus
voilà,
dévastateur.
Plus badass. Et du coup, on le voit charger son pouvoir... qui est plutôt pas mal fait.
Donc oui, en gros, c'est un petit peu des injections de Botox, mais qui donneraient des super pouvoirs.
Ouais,
c'est un petit peu ça.
Final, c'est comme le Botox, c'est-à-dire que les gens finissent ravagés, c'est ça qui est rigolo.
C'est ça, on apprend vite qu'en fait, c'est ça qui a provoqué la chute de la ville.
Exactement.
Entre autres.
Donc on passe du coup à l'ambiance générale du jeu. Ça se passe, on avait dit, dans les années 60. Mmh. Donc une ambiance, une musique... Très typé
années
20-30,
moi je dirais même.
Hein ?
Aller jusqu'aux années 20-30.
20-30, ouais, pour certains. C'est une société en fait qui n'a pas beaucoup évolué depuis qu'elle est sous l'eau, en tout cas pour tout ce qui est la mode et tout ce qui est l'habillement, tout ce qui est la musique. Tout reste un petit peu d'époque. On croise par exemple des mégaphones.
Oui.
On croise quoi, des vieux magnétophones. On croise qu'est-ce qui participe selon vous aussi à l'ambiance?
La mitraillette est un Tommy Gun.
La mitraillette est un Tommy Gun, une mitraillette des années 30 qui était utilisée par les mafieux d'ailleurs
c'est
de
ça.
L'époque.
Tout le côté en fait sous-marin avec les côtés hublots, genre vieux scaphandre qu'on peut voir dans des livres genre Jules Verne, etc.
Exactement.
Qui rappelle du coup un côté donc néo-futuriste, on pourrait dire.
C'est ça.
Enfin, rétro-futuriste plutôt.
Rétro-futuriste, oui.
Et donc steampunk, etc.
Voilà.
Le côté vieillot.
Pensez un petit peu 20 milieux sous les mers, la version
voilà,
Disney.
C'est
exactement.
Voilà, c'est exactement ça. L'ambiance participe énormément au jeu parce qu'en plus, ils n'ont pas cédé à la facilité de faire un jeu où vraiment on était le plus fort. Mm. On se sent un petit peu vraiment oppressé à la fois par la faune et la flore, on va dire.
Ouais.
Le décor en lui-même est un vrai labyrinthe, donc on se sent un petit peu perdu. Et puis, donc plus on avance dans les niveaux, plus on connaît son environnement et plus on devient, plus on surpasse en fait les embûches.
D'accord. Alors, au niveau des influences, le jeu est donc très, très orienté sur certaines influences. On l'a dit tout à l'heure, 20 milieux sous les mers. Mm-hmm. Est-ce qu'on pourrait penser à des choses comme par exemple 1984 de George Orwell?
Complètement.
Tous les livres de dystopie, etc.
Alors, est-ce que quelqu'un peut expliquer ce qui est... Est-ce qu'il y a une dystopie?
Alors, une dystopie, bon, je vais l'expliquer pour une fois, c'est toujours Tom qui explique. Alors, vous voyez Utopie, donc Utopie c'est un monde parfait, et bien la dystopie c'est le contraire, c'est-à-dire que c'est un monde pas parfait du tout. Wow,
voilà, c'est un monde en fait qui a voulu être parfait, fondé par un mec dans le jeu qui est un petit peu mégalomane, Andrew Ryan, pour ne pas le citer, qui a voulu rendre un monde parfait, donc dans lequel tout le monde... aurait une chance et voilà, il supportait pas les mondes actuels et du coup il a fait, je vois que tout le monde joue en même temps, c'est incroyable.
Je pense que je vais pas tarder à lancer le mien à la tête de Guillaume d'ailleurs, ouais. Je brûle d'envie.
Alors avant qu'on finisse de jouer, on va jouer dans 8 minutes exactement les enfants. est-ce qu'on peut parler justement des ennemis qui sont finalement partie intégrante de cette ambiance? On va commencer par les chromosomes par exemple. Les chromosomes ce sont les personnes qui s'injectent coup des plasmides.
Et aussi en fait, les habitants.
C'est des drogués en fait à ça, c'est-à-dire que c'est les gens ont créé une dépendance en fait à ce produit-là et du coup sont défigurés et cherchent des cadavres pour récupérer justement des plasmides, enfin des...
Voilà, tout à fait. Donc c'est des gens comme... Finalement, ce sont des junkies. On croise quasiment que des junkies pendant...
Plus ou moins. Junkies malgré eux, on va dire.
Et des sacrés fous aussi à beaucoup de moments. Ils sont habillés, bien sûr, comme dans les années 20-30. Ils ont des masques. Ils ont beaucoup de masques.
Pour cacher leur laideur.
Pour cacher leur laideur.
Il se trouve qu'il s'est passé un événement qu'on vous laissera découvrir quand vous y jouerez, qui fait que donc il y avait une bonne excuse pour porter un masque au moment où la ville a sombré.
Exactement. On peut aussi parler des protecteurs et des petites sœurs qui ont fait un petit peu le sel du jeu. Alors, qui pour nous expliquer un petit peu ce que...
Je crois que ce sera toi ou notre invité.
Ou notre invité. Les petites sœurs, alors, qu'est-ce
donc,
que c'est?
Donc, les petites sœurs, c'est des enfants d'une dizaine d'années, réellement, je pense.
À peu près, des petites filles.
Des petites filles qui récoltent la dent.
Voilà, donc la dent sur les cadavres.
Qui ont les réserves des Adams, en fait, la dent.
Voilà.
Et le protecteur, sont là pour les protéger. Ils ont un lien avec elles, et si on s'attaque aux petites sœurs, un protecteur viendra toujours la sauver.
Voilà.
Donc il faudra toujours batailler avec un protecteur si on attaque une petite sœur.
Mais du coup, qu'est-ce qu'un protecteur?
Un protecteur, on ne le sait pas beaucoup, en tout cas, pendant le premier jeu.
Mais on sait au moins à quoi ça ressemble, quoi.
Voilà,
on sait à quoi ça ressemble. Alors, c'est comme un gros scaphandrier de l'époque, des années 20-30. Avec un espèce de gros scaphandre, une grosse armure qui a une main normale et une main en forme de foreuse, exactement, qui lui permet de combattre tous ceux qui
ça s'aventurent. Ça rappelle justement ce personnage, rappelle un espèce de monstre de film qui sort des marais. Je sais plus le nom du film, mais c'est un très vieux film de genre avec un monstre. Enfin, je vais essayer de chercher le nom, comme ça je vous donnerai l'inspiration en fait du truc. Donc continuez pendant ce temps.
D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre sur le jeu?
Alors sur le jeu, ce qui fait en vrai le sel du jeu, parce qu'on vous parle de l'ambiance, du gameplay, etc. Mais le truc du jeu, c'est surtout son histoire.
Son histoire, exactement.
C'est en fait un FPS, un des premiers FPS avec une histoire qui est vraiment construite et qui comprend des gros rebondissements. On est vraiment surpris de l'avancée, de faire des vraies découvertes. Et à l'époque, ça vraiment, c'était plutôt nouveau au final d'avoir une telle construction scénaristique dans un type de jeu qui à la base était plutôt bourrin. C'était vraiment, vraiment incroyable quoi à l'époque.
Oui, Manon ?
Oui, ce qui est bien aussi, c'est quand même, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'on peut faire des choix. Et qui ont une importance sur la fin quand même aussi. Donc,
on peut faire des choix,
c'est
effectivement. Vous avez le choix, alors il faut le préciser, vous pouvez tuer des protecteurs et vous avez le choix ou non de récolter la dent des petites sœurs ou de les laisser partir. Et suivant vos décisions, ça influencera plus ou moins la fin.
Sur la fin, voilà, il y a deux fins.
Voilà, tout à fait.
Trois fins. Je ne sais plus.
Deux fins.
Moi, je dirais deux.
La gentille, méchante, quoi. Enfin.
Voilà. Et donc, en fait, voilà, ce qui est vraiment intéressant dans ce jeu, c'était toutes les ramifications scénaristiques et qui avait un scénario qui était engagé sur un point de vue sur qu'est-ce que c'est qu'une dystopie, est-ce que ça marche vraiment. Ouais. C'était, à l'époque, c'était assez formidable.
C'était très satirique, en fait, sur la société aussi. Je suis désolé de repenser à Infinite, mais c'est vrai que c'est plus accentué sur Infinite, c'est plus visible rapidement que dans... Mais il y a toute la satire de la société de consommation, etc. C'est pour ça qu'ils créent une ville, en fait, pour essayer d'arriver à un idéal. On a aussi tout ce côté rêve américain qui est arrivé à foison dans les États-Unis dans les années 60, avec les 30 Glorieuses, etc. Blablabla.
Non, mais c'est tout à fait ça. Effectivement. Est-ce qu'on pourrait dire, selon vous, que jouer à BioShock, c'est comme lire un bon bouquin ?
Non, pour moi, non.
D'accord.
Au sens où, certes, il y a une très bonne histoire, etc., mais je trouve qu'il y a toujours un investissement différent entre un bouquin et un jeu.
Mais est-ce que
jeu...
la qualité de l'histoire peut être comparée à celle d'un bouquin?
Dans ce
sens-là,
la qualité de l'histoire se compare, selon moi, plutôt à un bon film, parce que le jeu n'est pas excessivement long non plus, il doit faire une dizaine d'heures maximum.
Pour un FPS, je trouve que c'est quand même bien.
Oui, pour un FPS,
mais c'est 10 heures bien remplies.
Voilà, mais c'est 10 heures bien remplies, mais il y a vraiment. C'est un jeu où ses créateurs ont fait attention à l'écriture et attention au scénario. Plus ou moins un petit peu comme sur cette génération-là, un petit peu comme Spec Ops qu'on n'attendait pas au tournant, bon, alors que BioShock on l'attendait au tournant.
Spec Ops, dont on va peut-être faire une émission entière.
Oui, il serait temps.
Je pense qu'il serait temps, effectivement.
Que je le fasse alors.
Alors, Guillaume, est-ce que tu.
C'est vrai que c'est pas le même plaisir. Après, moi j'adore, enfin perso, mais je dirais que c'est pas comme un vieux bouquin parce qu'il y a le côté ambiance en fait, musical, etc., qui joue. Dans un livre, j'entends pas la musique des années 30 qui me donne envie de danser ou de chanter la mer. On va danser.
Et
voilà.
Qu'en pense du coup notre invité ?
Oui, Manon, vas-y.
Je pense que oui, l'ambiance fait beaucoup. Je pense pas qu'un bouquin pourrait redonner toute l'ambiance, vraiment toutes les descriptions sur les chromosomes, tout ça. Les protecteurs.
Tout ce qu'on y voit et tout ce qu'on y fait.
On n'aurait pas réellement tout leur aspect et tout ça. On n'aurait pas accès à toutes ces informations.
Est-ce qu'on pourrait passer quelques secondes sur un défaut que vous trouvez au jeu? S'il en a.
J'en aurais un récurrent, en
oui,
fait, mais
j'en ai un aussi. Mais
c'est
vas-y.
Plus pour les derniers, mais je trouve que ça peut être... c'est trop, en fait, le jeu a trop une structure de jeu vidéo, c'est-à-dire tu dois aller d'un point A à un point B, sauf qu'au moment où tu vas arriver au point B, il faut que tu fasses un point C. Et
c'est
dès que tu as réussi le point C, il faut que tu arrives à un point D. Pour aller à un point E, pour finalement arriver au point B.
Mais
et du coup,
c'est ce qui rend le jeu si riche.
Oui, voilà, et ce qui fait que le jeu est long, mais je trouve, par exemple, pour BioShock Infinite, c'est beaucoup de détours.
Je suis d'accord.
Voilà.
Et
mais
puis, on en reparlera.
Il était un peu présent quand même dans les premiers BioShock, je ne peux pas le nier.
Effectivement. Alors, un petit défaut que j'aurais au jeu, c'est le boss de fin. Trouvais un petit peu laid, un petit peu mal amené, mal foutu. Voilà, pas terrible, pas très, très... Pas terrible.
Pas formidable.
Voilà. Manon ?
Comme ça, non, j'en vois pas.
On est une vraie fan ici.
C'est ça. Moi, je citerais comme défaut, alors c'est un petit peu paradoxal, je citerais comme défaut le scénario, qui en fait était tellement bon qu'il éclipse vraiment les suites.
C'est vrai.
Je pense qu'ils ont vraiment tellement tout donné en fait pour le premier que forcément le 2 et Infinite, si bon soit-il, et leur scénario est vraiment très très bien, sont audacieux. Le premier avait vraiment, en particulier un twist dont on ne parlera pas mais qu'on vous recommande plusieurs fois, qui a vraiment le défaut d'être en fait trop parfait.
Ok, alors j'aurais juste une dernière petite anecdote avant de terminer cette émission, je crois qu'il nous reste quelques secondes.
Ouais, quelques
alors le contexte du jeu fait explicitement et directement référence au roman d'Ayn Rand, La Grève, qui s'appelle Atlas Shrugged. Atlas, référence à Atlas qui guide Jack dans le jeu, donc c'est une référence évidente. Le nom d'Andrew Ryan également contient l'anagramme de Ayn Rand. Donc c'est un... Andrew Ryan, c'est l'anagramme de ce mec qui a écrit
le livre.
Le livre qui a influencé BioShock.
Grosse référence.
Voilà, une petite référence sympa. Eh bien, voilà, ça passe très vite. On aurait aimé en dire plus. BioShock, c'est
énorme.
J'ai une
petite anecdote pour finir, qui n'est pas réellement une anecdote. Sachez que System Shock 3 est dans les cartons. N'oubliez pas d'aller voir tous les screenshots un par un.
Voilà. Et sachez également qu'on reviendra une prochaine fois sur BioShock, mais cette fois sur BioShock Infinite, que Guillaume apprécie particulièrement, dans une prochaine émission, peut-être pas la prochaine, pour pas faire un petit peu trop lourd, mais un petit peu plus tard. Du coup, notre émission est terminée, déjà, les amis.
Bah oui.
On vous remercie de nous avoir écoutés. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie de découvrir le jeu. On vous le conseille tous les trois.
Il est pas cher maintenant.
Tous les quatre, même, on vous le conseille parce que c'est un jeu incroyable. Il est pas cher. Il ressortira peut-être bientôt sur la nouvelle génération. Donc, achetez-le, c'est très bien. Et vous passerez de toute façon, quoi qu'il arrive, un bon moment. On vous remercie et on vous dit à la prochaine pour C'est la faute à la manette.
À la prochaine.
À la prochaine.